les choses un peu plus pointues. C'est marqué dans Rachamat Ameler Shachach. La colère du roi s'est apaisée. Et c'est un peu difficile parce que Shachacha, c'est deux kaf, donc shin, kaf, kaf. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux shrichot en quelque sorte? On répond traditionnellement, une pour Malko Shel Olam, mais le Meler c'est Malko Shel Olam, c'est Hachem, et l'autre pour Achashverosh, puisque on sait bien, mais c'est ça la question, c'est que étant donné qu'on sait très bien que dans la Megillah, on sait très bien que Meler, donc c'est écrit seulement Meler, il s'agit d'Hachem, Meler Malchem Lachem Akadosh Baruch Hu, et que autrement on précise Meler Achashverosh. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'écrire que ça concerne les deux ici? Ce n'était pas nécessaire, on sait. C'est toujours le cas. Alors, les poskim écrivent, d'après Chazal, sur, c'est écrit Vegam Charbona d'Achorlatov, qu'il faut, il faut mentionner Charbona aussi quand on. Quand on mentionne Baruch Mordechai Ayoudi, le Gam Charbona Zacholatov. Charbona, c'est celui qui est venu au secours de la victoire. C'est-à-dire que quand Esther a dit que le méchant, c'était Aman, alors Charbona est venu, il a dit, oui, d'ailleurs, ce Aman, il a fait construire une potence de 50 amotes de hauteur pour y pendre celui qui a dit du bien du roi Mordechai. Et comme vous savez, la réponse de Achashverosh était « Tlou alav, pendez-le, haut et court, sur cette potence qu'il avait dressée lui-même. » Donc il faut mentionner Charbona. Il y a toute une discussion qui était Charbona, est-ce que c'est Eliyahu HaNavi, est-ce que c'était vraiment Charbona? Alors, bon, les Chachamim qui disent que c'était Eliyahu HaNavi qui vient et qui a pris le... qui s'est présenté comme s'il était Charbona, un des serviteurs. Chachamim nous ont montré ici que dans cette affaire-là, quand on dit que Charbona a dit, voilà, il y a aussi cette... potence, ce Hetz, Asher Asa, Aman, le Mordechai, qu'il a fait pour y pendre Mordechai, qui a dit du bien du roi. Les Chachamim nous ont dit qu'il faut entendre ici la lumière de Eliyahu HaNavi. D'ailleurs, quand on dit Zachor Latov, Gam Charbona Zachor Latov, on l'entend bien ici du Eliyahu HaNavi, c'est pas Zachor Latov, c'est Eliyahu HaNavi. Et on peut penser aussi que quand on dit Vegam Charbona Zachor Latov, le mot Gam est aussi un remez, une allusion à ce qui est dit dans ses propres paroles. Il a dit Vegam Hine Haetz. Il a commencé, quand il a commencé son intervention, il a dit et aussi, c'est-à-dire non seulement Agam Lirbosh et Amalka Imi Abait, Vegam, il voulait tuer, etc. Et aussi, il a dressé une potence pour Mordechai. Donc, cette façon de parler, Vegam, ça appartient à Eliyahu HaNavi. On va le voir plus clairement. dans le paradis d'Israël, il avait le paradis d'Israël, Rabbi Yitzhak Kouchner, il avait l'habitude d'enseigner que le derer klal, quand on dit à quel on dit au sujet de quelqu'un, zichrono livracha, on mentionne souvent un défunt et on dit zichrono livracha. Comme dit le pasouk, zecher tzadik livracha. Sur Eliyahu Hanavi, le nusach, c'est pas zichrono livracha, et c'est zachour latov. Nous en souvenons bien. Voilà. Ça a failli déborder. Au Bier, donc il a expliqué le Paradis Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on dit Zachor Latov? C'est parce que Eliyahu Hanavi, c'est celui au sujet duquel il est dit à son sujet, on n'a jamais dit à son sujet Baur Dayana Emet, puisque comme vous savez, Eliyahu Hanavi n'est pas mort. Il est monté au ciel. Donc on n'a jamais dit Baur Dayana Emet, qui est la bracha qu'on fait lorsque on apprend le décès de quelqu'un. On sait très bien que, en général, il y a deux façons de réagir. Sur le Tov, on dit à Tov et à Métiv. Le bon qui fait du bien. Et on dit aussi sur Dayana Emet, un juge en vérité, juge de vérité. Mais celui qui n'a pas goûté, si on peut parler comme ça, le goût de la mort, le goût de l'enterrement, chez lui, en ce qui le concerne, lui, il n'a jamais expérimenté. À son sujet, on n'a jamais dit le Baur Dayana Emet, donc il ne connaît que Atov et Ametiv. C'est-à-dire que le Shaliach, Eliyahu Hanavi, c'est l'envoyé d'Hachem. C'est celui qui va nous introduire à la fameuse époque qui est caractérisée par Kulotov ou Metiv. Olam Haba, enfin, Tidlavo, les Shiach, etc., qui est Kulotov et qui va nous introduire à Triata Metim. Donc, c'est pour ça que ce qu'on vient de dire aussi sur le mot gam est également, gam c'est également, que ça fait référence à la lumière d'Eliyahu Hanavi qui apparaît ici dans cette Megillat Esther. C'est-à-dire, il y a là cette idée de gam, ça veut dire on ajoute quelque chose. Aussi, on ajoute, c'est un ajout. C'est-à-dire, le Tov n'est pas là tout seul. Le Tov qu'on a déjà mentionné n'est pas là tout seul. Mais il y a encore un Vegam et aussi un autre Tov. Donc, le Din qui vient s'ajouter là, qui lui aussi est de l'ordre du Atov et Ametiv. On sait que, par exemple, on parle de Nahum im ish gam zu. Lui aussi, il utilisait le gam. Lui disait gam zu le tova. Ça aussi, c'est le tova. Tout ce qui apparaissait aux yeux de Monsieur Tout le Monde comme étant quelque chose de souffrance, quelque chose de difficile. Nahum ish gam zu, il disait gam zu le tova. Ça aussi, c'est le Tova. Et donc, quand il commence, Ron Harbona commence son intervention en disant Gam hine ha'etz asher asa aman le Mordechai. Et aussi, voici la potence que Aman a faite pour Mordechai. Jusqu'à ce que le roi finisse par dire pendez-le et que la Megillah dit et alou et Aman al ha'etz asher echin le Mordechai. Tout ça, c'est les paroles de Harbona qui viennent après que la Megillah ait déjà dit que Aman s'est jeté aux pieds d'Esther. Il est quasiment tombé, et en fait, il est même tombé sur, on l'a fait tomber sur le lit d'Esther, parce que il a bien vu que Kalta et Lavaraa, il a vu que son sort, son mauvais sort était scellé en quelque sorte. Alors après, c'est marqué Adavar yatsa mipi ha-melech ufnei Aman chafu. À ce moment-là, le visage d'Aman, il a changé de couleur. Donc, ce qui était important dans la démarche de Harbona, c'est pas lui qui a entraîné la mort d'Aman. La mort d'Aman, elle était décidée par le roi quand Esther a pointé Aman, c'était terminé, puis ensuite il en a remis une couche. Gam lirbosh tamalka imi babait. Tu veux aussi maintenant séduire la reine aussi devant moi, devant mes yeux, dans ma maison. C'est pas Harbona qui a fait cette. Qui l'a condamné à mort en quelque sorte. Ce qui s'est passé, ce qui est important dans la démarche de Harbona, c'est le fait qu'il a inversé les choses. Il a participé à ce retournement. La mitad de Aman a passé de une mitad au sens habituel du terme. Elle a acquis ce caractère de vena forhu. C'est devenu quelque chose qui s'est renversé. Comme on dit, nous on dit dans l'anissim, va shevat alo gmulo berosho, vetalo oto, etc. Cette idée que les choses se sont retournées. Les choses qu'il avait mises en place se sont retournées contre lui. Sa pensée qui concernait, sa pensée qui était « je vais pendre Mordechai à cette potence », c'est le conseil que sa délicieuse femme lui a donné. Bon. C'est retombé et c'est tombé sur lui. Sur lui, Aman. Il a donc été pendu à la potence de 50 amot qu'il avait préparé pour Mordechai. Donc ici, il y a une importance très grande qui est donnée au fait à ce fameux Vena Forhu. Les choses se sont retournées, en fait. C'est-à-dire que on n'a pas simplement eu de la tendresse d'Hachem qui s'est manifestée à l'égard du Klal Israël, du Rachamim, comme on dit, qui s'est manifestée à l'égard du Klal Israël. Mais c'est la Xéra elle-même qui au début était une xéra de mort, qui s'est retournée en une Yeshua et en du Rachamim. En fait. Ça veut dire quoi? On a ici un cas typique où le din devient Rachamim. Le Din lui-même s'est retourné et il est devenu Rachamim. La rigueur, donc, qui était censée s'appliquer, c'était ça le projet d'Aman, ce qui devait s'appliquer à Mordechai, voilà que cette chose-là, s'appliquant à Aman, devient pour les Bnei Israël du Rachamim. Vous savez bien, c'est cette histoire que on demande à Hachem de passer au moment du jugement, de passer, mais qui c'est Din ou qui c'est Rachamim? Alors là, on a l'impression qu'il y a deux Kisaot, il y a deux trônes, il y a un trône de Din et un trône de Rachamim, et qui s'assierait de l'un, et ensuite il s'assierait dans l'autre. Ici, on dit, le Din lui-même devient Rachamim. On voit que le din, finalement, il est au service du rachamim. Donc, même le côté, disons, Dayana Emet, qui est la parole qu'on dit dans le cadre d'un décès, c'est devenu une parole de Tov Umetiv. Tout ça, c'est inclus dans le Vegam Charbona Zachur Latov. Puisque, justement, Harbona, il a utilisé cette terminologie qui est typique d'Eliyahu Hanavi, Vegam. Vegam hine ha'etz. Donc, Vegam veut dire, il n'y a pas seulement ce qu'on voit maintenant. On voit Aman pendu. C'est pas ça le tableau. Le tableau, c'est de voir qu'Aman est pendu à la potence à laquelle il voulait pendre Mordechai. C'est ce renversement qui est important. Donc, pour Aman, il n'y a pas eu seulement la condamnation à mort par Ahasvéros, mais grâce à Harbona, il y a un avis, il y a eu clairement, parce que quand le roi l'a condamné à mort, et ben voilà, on aurait pu lui trancher la tête, point barre. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Si on l'avait tranché la tête, bon là, il est mort comme tout condamné à mort. En Perse. Mais ici, il n'est pas mort comme ça. Il est mort par le processus de Nahafoku. Bien entendu, vous savez bien que Haman, c'est un drôle de bonhomme. Haman, c'est quand même quelqu'un. C'est Amalek. En soi, c'est très difficile de comprendre comment Aman réussit à être quasiment, il semble là-bas qu'il soit le chef de la noblesse persane, la noblesse qui est autour du roi Ahasvéros. Son chef, c'est visiblement Aman. C'est Aman qui est capable, c'est lui qui a permis à Ahasvéros de tuer Vashti. Ahasvéros, quand Vashti s'est moqué de lui en ne venant pas, en n'obéissant pas à ses ordres, il avait perdu complètement la face. Comme c'était elle qui était la descendante de Nebuchadnezzar, que lui, finalement, il est. Au plus, il est un prince consort, c'est tout, mais pour des raisons, je ne sais pas, peut-être qu'on ne met pas sur le trône, n'était pas une femme, donc ce n'est pas elle qui était, mais de facto, c'était elle qui était l'héritière de l'Empire, en quelque sorte. Elle l'a envoyé promener, quoi. Il lui a donné un ordre. Elle lui a dit, je n'obéis pas à tes ordres. Et comme l'ordre qu'il avait donné, c'était justement un ordre par lequel il voulait manifester que c'était lui le maître. Parce que quand il a dit à Vashti qu'il voulait la voir et qu'il la voulait nue, c'est pas De Gaulle qui voulait l'Angleterre nue, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il voulait la nudité, elle était complètement secondaire. Ce qui était important, c'est la nudité, le fait qu'elle ne porte aucun des signes qui montrent qu'elle est, elle, la descendante de Nebuchadnezzar. Il voulait qu'il apparaisse qu'elle était sa créature. Donc, à la limite, je te prends toute nue et tu ne seras que ce que moi, je voudrais que tu sois. Mais elle, qui était une affreuse bonne femme, Rishanta, bien sûr, mais elle l'a vu venir. Elle a bien compris ce qu'il voulait. Elle ne lui a pas donné. Bon, ça lui a coûté la vie. Mais ça lui a coûté la vie parce qu'il y avait Aman. Mais si Aman est Amalek, y a un petit problème. Qui est Amalek? Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. D'accord? Amalek, c'est l'enfant que le fils aîné d'Ésaü, Eliphaz, a eu avec la fameuse princesse dont on ne connaît rien du tout, sauf qu'elle est la sœur de Lotan, et qu'on sait ça on le sait par la Torah, mais ce qu'on sait par la Torah orale, c'est que c'est une femme qui a voulu à toute force entrer dans la famille. Elle voulait absolument entrer dans la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui l'ont refusé. Et du coup, elle s'est adressée à Ésaü, il n'a pas voulu, qui n'en a même pas voulu comme épouse de son fils. Il l'a acceptée comme concubine d'Ésaü, du fils d'Ésaü, concubine d'Éliphaz. Et un jour, il y a eu un faire-part. Monsieur et Madame Eliphaz, etc. Et Madame ont la joie d'annoncer la naissance de Amalek. Donc Amalek, c'est un sémite. Or, les Perses ne sont pas des sémites. Comment imaginer dans la noblesse perse que le chef des nobles, ça soit un sémite. Bon, ça existe des transferts de ce genre-là, mais enfin, c'est pas tout à fait normal qu'il arrive à entrer, mais qu'il soit même à la tête de tout. Celui qui est capable de dire ensuite à Achashverosh, c'est moi qui t'ai fait roi. Parce que s'il n'avait pas permis à Achashverosh de tuer Vashti, Achashverosh était fini. Il n'était plus roi. Donc ce Aman qui est Amalek, son projet, c'est un projet typiquement Amalek. Il s'agit d'essayer d'obtenir une éradication complète du peuple juif. Or, c'est marqué Réchid Goïm Amalek. Littéralement, ça veut dire que Amalek est aussi le Réchid de tous les peuples. De même que Israël est un Réchid pour Hachem, le Réchid des Goïm, c'est Amalek. Le pendant d'Israël chez les Goïm, l'Avdil, disons, même, pour pas dire le pendant, mais c'est Amalek. C'est le régime du côté du mal, si vous voulez. Il ne s'agit pas seulement de faire le mal pour soi. C'est de permettre au mal de supplanter le bien, de phagocyter littéralement le bien. Le zé le oumad zé, en fait. De tout ce qu'on a dit plus haut. Toute la conquête, en quelque sorte, du Tov, qui prend le pas sur tout le din, et c'est ça que le roi aussi dit, Hagam lichbosh et amalka imi babait. Hagam. Et encore aussi, en plus de tout, tu veux encore? Donc, tu veux me prendre ma reine? Ce qui m'appartient, tu veux aussi me le prendre? Cher Malek, il voulait faire le contraire, c'est-à-dire il voulait faire en sorte que tout devienne din et colère, mecharonaf, etc. Chez Aman, le mot classique, c'est af. Af, c'est la colère. Bon, qu'est-ce que dit Aman quand il rentre chez lui? Il devrait être archi content, le monde, tout le monde se prosterne devant lui, bon, il ne supporte pas, etc. Et puis après, tout à coup, il vient et il dit Ve'af, lo'evi à Esther. Esther n'a convié au festin qu'elle donne au roi que moi, Aman. Dans le Midrash Rabba sur Esther, les Chachamim disent Arba hem shepatru be'af ve'avdu be'af. Il y en a quatre qui ont commencé à parler avec le mot af et qui ont été perdus par le af de la colère. Aman, c'est Aman qui dit af lo evi à Esther. Il n'y a que moi, même cela, mais c'est af, ça commence. Bien que ce c'est pas trop vraiment. Parce que c'est au milieu de ce qu'il dit à Zeresh et à Avav. Parce que le pasouk dit Vayomer Haman Af. C'est-à-dire, cette parole-là, cette Amira Vayomer, elle-même commence par Af. Donc ça nous dit qui est Haman. Marqué aussi sur le Nahash de celui qui a entraîné la mort dans le monde. Il a commencé aussi à dire à Chava, il lui a dit Af ki amar Elohim. On traduit par bien qu'Elohim ait dit. On commence par Af aussi. Dans la Gemara, dans Megillah, on dit que Achashverosh, dans sa colère, il est sorti El Ginat Abitan. Il est sorti dans son jardin d'hiver, probablement, quelque chose comme ça. Et il a vu qu'il y avait plein de gens qui étaient en train d'arracher les arbres dans son jardin d'hiver. Le Midrash dit que c'était les Malachim qui étaient déguisés en jardiniers et qui arrachaient les arbres. Et quand il leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous fabriquez ?» Alors, ils lui ont répondu, ça c'est un ordre de Haman. C'est pour ça qu'il est entré dans une énorme colère. Il est entré avec ce agam. C'est-à-dire de l'intérieur et de l'extérieur, cet Aman, il me rend fou. Il attaque ma reine à l'intérieur et il attaque mon jardin d'hiver, il déracine mes arbres. Et c'est pour ça que dans la parole de Harbona, qui dit ce qui amène le Vena Forchu, on entend bien, donc comme on a dit, Eliyahu HaNavi, Zachor le Tov, parce que partout le rat devient du Tov. Donc, pour revenir à la question initiale, pourquoi est-ce que Ramat Amelech Shachacha, deux Shlichot, on a dit pour Malko Shel Olam et pour Achashverosh, dans toute la Megillah, hein, on n'a pas besoin de marquer le double sens du roi. Le roi, c'est Hachem, et le roi, c'est aussi Achashverosh. Parce que Stam Melech, si on dit rien, en vérité, c'est Melech Malchim Lochim. Et comme les choses se font dans le monde d'en bas, elles se font aussi dans le monde d'en haut. Mais ici, en plus de la chose qui s'est faite en bas, en particulier ce qu'Aman a fait, que finalement le sort s'est retourné contre lui, on veut en plus marquer que la colère du roi, la colère d'Hachem, en fait. Et donc toute la notion de colère divine, tout le charonav qui existe dans le monde, tout ça, ça va disparaître quand Amalek disparaît. Et donc toute cette énergie, en quelque sorte, négative qui existe dans le monde. Toute cette énergie-là, elle devient positive dès lors que Amalek est détruit. Et si Eliyahu HaNavi peut apparaître sur cette scène comme un goy quelconque, en fait, Harbona, et que même sous cet aspect-là, on entend du Eliyahu HaNavi parler. Il parle comme Eliyahu HaNavi. Alors, dans notre avoda quotidienne à nous, c'est-à-dire, peut-être pas quotidienne, dans la avoda spécifique, ouais, c'est pas tout à fait quotidien. Dans la avoda spécifique, disons, de Pourim, cette avoda de Hat de l'Yoda, où il faut s'embrumer jusqu'à ne plus savoir. Alors, il faut savoir que même là, cette lumière de Kulo Tov Ve'Ametiv, c'est celle-là C'est celle-là qui doit toujours être présente en quelque sorte. Cette lumière, elle doit arriver. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'à Pourim, en tout cas, il y ait toujours cette étincelle d'Eliyahu HaNavi, en quelque sorte. Que même si effectivement on boit un peu, beaucoup, il faut toujours que ça ait la tenue. Il y a ou un avis, c'est-à-dire, même si, puisqu'on voit très bien que même quand il y a un avis se présente comme un goy, serviteur goy, il faut quand même que son parler de ce goy est un parler qui soit un parler il y a ou un avis. Aussi, il faut qu'on perde pas de vue que notre parler, même dans cette situation-là, il doit rester un parler du type Eliyahu HaNavi. Voilà. Dans les mitzvot hayom, dans les mitzvot du jour de Pourim, on a parlé de cette nécessité de se mettre dans une situation particulière. Ad de l'oyada, jusqu'à ne plus savoir. Alors, je voudrais insister sur le fait de ce qu'on ne devrait plus savoir, la différence qu'on ne devrait pas, on devrait plus pouvoir faire. Il y a des gens qui s'imaginent que ça veut dire qu'il ne faut plus faire la différence entre Haman et Mordechai. C'est un non-sens, bien sûr. Ce n'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est ne plus faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Ça veut dire quoi? Arur Haman, le Gaon dit, ça fait référence à la nekama, la vengeance qui s'est exercée à l'égard d'Haman, d'un côté. Et de l'autre côté, Baruch Mordechai, ça parle du fait que Mordechai a été Baruch, c'est-à-dire qu'il est passé du point de vue perse de Monsieur Tout-le-Monde à grand vizir. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas faire la différence. Il faut arriver, disons, à boire ou à dormir, de telle sorte que pendant ce temps-là, sous l'emprise de dans l'ivresse ou dans le sommeil, on oublie la différence entre les deux. Ça veut dire qu'il y a une différence. Alors, il faudrait d'abord essayer de comprendre, essayer de voir c'est quoi la différence exactement. Alors, je voudrais rappeler quelque chose que je crois avoir rappelé il n'y a pas si longtemps. Il y a un midrash qui n'a rien à voir avec Esther. Un midrash dans Bereshit qui dit la chose suivante. Le midrash dit, je ne sais pas si Hachem préfère les maasim des tzadikim ou les maasim des rechaim. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Hachem préfère les actions des tzadikim, des justes, ou les actions des rechaim. Alors, quand on lit ça la première fois, on se dit, il doit y avoir une faute d'impression quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si Hachem préfère les actions des tzadikim ou les actions des rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'Hachem préfère le bien ou le mal? Je ne sais pas. Bon, évidemment, ça n'a pas de sens si on dit comme ça. Mais je crois avoir déjà dit, je vais le répéter quand même, que je crois qu'il faut l'entendre de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour être reconnu dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui se déroule, les choses se passent dans le monde, et au fond, d'une certaine manière, comme vous savez, le monde, le mot « olam », c'est pratiquement le même mot, les mêmes lettres que « elem », c'est-à-dire ce qui est caché. Le monde, d'une certaine manière, nous cache Hachem. Le monde, il a l'air de se dérouler selon des lois propres. Ce sont les lois du monde. Les lois du monde. Alors, premièrement, il faut savoir que ces lois du monde, c'est aussi Hachem qui les a mises au monde. Les lois du monde, ce n'est pas le monde qui s'est inventé des lois. Les lois du monde, c'est une façon qu'a Hachem de gouverner le monde. Et c'est une façon, si vous voulez, avec des principes immuables. On peut dire, c'est comme des malachim, en quelque sorte. Vous vous souvenez, on avait dit, on avait bien expliqué, je pense dans le chiour de Chumash, que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu après le veau d'or, il a dit, je vais vous envoyer un malach qui va vous guider. C'est ça qu'Hachem a proposé. Quand Moshe Rabbeinu a obtenu que Hachem ne détruise pas le clan d'Israël, parce que vous vous souvenez bien que après le Hegel, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais les détruire. Et donc Moshe Rabbeinu est intervenu, il a négocié, il a obtenu. Qu'est-ce qu'il obtient? Un malach qui nous guide. Mon cher Rabbeinu dit, mais si c'est pour avoir un malach, tu peux m'effacer de ton livre, je ne marche pas. Nous, en Israël, nous voulons une ligne directe qui ne passe pas par un malach. C'est quoi un malach? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi mon cher Rabbeinu ne veut pas d'un malach? Parce qu'avec un malach, il est un ordre d'Hachem. On ne peut pas discuter parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il doit faire ce qu'Hachem lui a dit de faire. Et donc, vous avez dans les lois du monde, ce sont des malachim. Vous ne pouvez pas discuter avec la gravitation. Vous ne pouvez pas négocier avec la gravitation que, écoute, ça m'arrangerait bien que maintenant, pendant 5 minutes, il n'y ait pas de gravitation. Je voudrais bien descendre du 6e étage sans m'écraser. Voilà, sauter un peu, mais sans que je m'écrase. Va négocier. Or, mon cher Abeinu, toute sa force, si vous voulez, c'est la capacité qu'il a pour de négocier pour le clan Israël. C'est comme ça qu'il a sauvé le clan Israël. Donc, il dit, il n'est pas question, je ne veux pas ça. Et Hachem a cédé. Hachem a dit, OK, d'accord. Alors, il n'y aura pas de malheur. Mais c'est ça, les lois de la nature, ce sont des malachim. C'est-à-dire des lois fixes. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Le monde cache Hachem parce qu'il a l'air d'obéir à des lois dont on ne voit pas tout de suite que ce sont des lois d'Hachem. Mais ce sont des lois d'Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu a aussi mis dans le monde une anaga différente, une façon de gouverner différente, qui n'est pas celle des lois de la nature, qui est un autre type de loi. Par exemple, des lois différentes qui font que certaines choses ne relève pas du tout des lois de la nature. C'est-à-dire que les lois de la nature sont suspendues pour un certain temps. Mais tout le but du monde, de la création du monde, c'est que les hommes doivent faire des efforts pour arriver à reconnaître que le monde est gouverné par Hachem. Alors, quand on était dans le désert, c'était facile, on ne pouvait pas se tromper. On mangeait de la manne, on était protégé par les nuées, on avait de l'eau par le beurre de Myriam. N'y avait rien de naturel dans tout ça. C'était facile. Mais le but de l'exercice, ce n'était pas de rester dans le désert, contrairement à ce que voulaient les Meraglim. Le but de l'exercice, c'était d'entrer en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, ça consistait à faire exactement la même chose que font tous les autres peuples, et néanmoins d'en attribuer le mérite, en quelque sorte, à Hachem. Je dois semer, enfin labourer, semer. Traité, etc., récolter exactement comme Monsieur Tout le Monde, comme l'arabe d'à côté ou le paysan de la Beauce, etc., peu importe. Donc faire la même chose que tout le monde. Mais savoir que si ma récolte a bien donné, même si moi j'ai l'impression que je suis un petit génie je sais pas, de l'irrigation ou de je sais pas quoi ou de la fabrication des l'utilisation des serres ou de je sais pas, ce que vous voulez. D'accord? Savoir qu'en réalité, c'est Hachem qui a fait que la récolte a été telle qu'elle a été. Et c'est difficile. C'est la même chose dans l'histoire de la guerre. Akadosh Baruch Hu il a mis les Bnei Israël dans la situation où il devait faire la guerre. David Ameller fait la guerre, les rois font la guerre, mais tout le travail, c'est d'être capable, même si on a eu des coups de génie, de stratégie et tout ce que vous voulez, dire c'est Hachem qui a gagné la guerre et pas moi. Et ça non plus, on n'a pas su le faire. Et ça sera d'ailleurs un des tests pour le Mashiach. Le Mashiach, il va devoir faire des guerres, d'après Rambam. Et évidemment, il faudra qu'il en acquitte. Il va les gagner et il va falloir qu'il reconnaisse que c'est Hachem qui a gagné la guerre. Et on sait bien que c'est comme ça que ça se passe, puisque Hizkiyahou, il n'a pas été finalement le Mashiach parce qu'il n'a pas été capable ayant gagné la guerre en dormant, d'en attribuer le mérite à Hachem. Il a quand même réussi à montrer que c'était lui. Et pour ça, il n'était pas Mashiach. Donc c'est très difficile. C'est une tâche énorme. Et donc, quand on fait les choses comme Hachem veut qu'on les fasse, alors Hachem est reconnu dans le monde, il est sanctifié par la conduite des gens qui se conforment aux lois qu'il a mises, et tout va très bien. Bon, ça c'est les massimes des tzadikim. Parfait, on comprend qu'Hachem apprécie ces massimes. Mais les massimes des rechaïm, comment ça peut faire plaisir à Hachem au point qu'on ne sait pas si c'est ça qu'il aime? Le problème, c'est que les massimes des rechaïm, quand les rechaïm font quelque chose, ils sont punis. Et quand les massimes des rechaïm sont punis, alors on voit que c'est Hachem le maître du monde. Donc du point de vue d'Hachem, on pourrait penser, il n'y a pas de différence, peu importe qu'on reconnaisse Hachem en se pliant à sa loi, ou que Hachem soit reconnu, parce que quand on ne se plie pas à sa loi, on est sanctionné, du point de vue d'Hachem, ça ne change rien. Et de son point de vue, de fait, effectivement, on n'en sait rien, le Midrash continue, il dit, quand Hachem a dit « Yehi or », ou bien « Choisis la vie », tu mets devant toi la vie et la mort, etc. « Choisis la vie », alors je vois qu'Hachem préfère la vie. Il préfère les massim des tzadikim. On ne sait pas pourquoi, mais on voit que s'il nous a dit faire comme ça, ça veut dire que Hachem préfère les... Mais c'est ça qu'il nous a dit là. Donc, les massim des rechaïm sont aussi des massim qui permettent de reconnaître Hachem dans le monde. Donc, si vous voulez, c'est quoi Arur Haman? Arur Haman, ce n'est pas très clair. Mais le Gaon dans le Shulchan Aruch, il explique qu'il s'agit de la Nekama contre Haman. La Nekama, la vengeance, comme vous savez, ça nous est interdit à nous. Mais Hachem est présenté qu'elle n'est qu'à mort Hachem. On voit très bien qu'on fait l'éloge de la Nekama d'Hachem comme étant un qu'elle n'est qu'à mort, un dieu vengeur. Ça veut dire, si c'est affreux, non? Non, mais on est dans le même paradoxe, si vous voulez, ou la même situation que quand on dit d'Hachem qui gaoga, Hachem s'enorgueillit. Hachem est orgueilleux. C'est affreux d'être orgueilleux. Oui, c'est affreux. Et pourquoi c'est affreux d'être orgueilleux? Parce que dans le Shir Shel Yom de Yom HaShishi, dans le psaume qu'on dit le sixième jour de la semaine, on dit, et on le dit aussi dans les psaumes que certains disent à Kabbalat Shabbat, après Mizmor Shir Yom HaShabbat, Hachem Malach. Et on dit, Hachem Araigné, Geout, il s'est revêtu, toute la mâche, il s'est revêtu de Gaava. La Gaava, c'est le manteau d'Hachem. Ça veut dire, l'orgueil, c'est le manteau d'Hachem. La raison pour laquelle l'orgueil est quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement négatif pour les hommes, c'est parce que celui qui s'enorgueillit se prend pour Dieu. Hachem, il peut se prendre pour Dieu, il l'aide. De la même manière, la nekama, nous, on n'a pas le droit de prendre la nekama. Mais la nekama, c'est quoi exactement? On voit que à la mort de Moshe Rabbeinu, juste avant sa mort, Hachem lui dit, tu peux prendre la nekama de Midian pour les Bnei Israël. Ensuite, Moshe Rabbeinu va dire aux Bnei Israël, on va prendre la nekama de Midian pour Hachem. Hachem dit pour Moshe, pour Israël, et Moshe dit c'est pour Hachem. Mais enfin, c'est quoi la nekama? Quand quelqu'un fait du mal, nous savons, c'est notre émouna, qu'un jour il sera sanctionné. Mais la plupart du temps, on ne voit pas la sanction. C'est notre émouna. On peut dire qu'il ne l'emportera pas en paradis. Effectivement, il n'ira peut-être pas au paradis, donc il ne pourrait pas l'emporter avec. Mais voilà. On ne voit pas cette vengeance. On ne voit pas la sanction, on ne la voit pas du tout. Hachem fait une tova à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, avant que tu ne meures, tu vas prendre la revanche, tu vas prendre la vengeance, tu vas te venger. C'est-à-dire, on va vraiment frapper Midian pour ce qu'ils vous ont fait. Midian qui a prostitué ses princesses pour faire tomber les Bnei Israël, alors que c'était même pas leur... Eux, ils n'avaient même pas peur. C'est Moav qui avait peur. Eux, ils ont fait du mal à Bnei Israël, c'est tout. Alors, on va leur faire la guerre, on va les battre. Et tu vas les battre. Toi, c'est toi au nom du clan Israël. Ça veut dire, de ton vivant, tu vas voir clairement la sanction de Midian. C'est un privilège d'avoir vu Midian fauter et de voir que Midian est sanctionné. Ça s'appelle Nekama. Nekama, c'est quand on voit la sanction qui vient sur la faute. Alors Hachem, il peut prendre la Nekama parce que lui, d'abord, il sait exactement quelle est la sanction de chaque faute. Nous ne savons pas. Notre vengeance, la vendetta corse ou autre, c'est pas toujours à la hauteur exacte de la faute qui a été commise, peut-être même jamais. Et donc, on n'a pas le droit de se venger parce que c'est pas vraiment. Tu n'es pas le maître capable de te venger. Donc là, Arur Haman, nous pouvons dire Arur Haman. Nous, on peut dire Arur. Maudit soit, mais bon, c'est tout, maudit soit. Finalement, quand on dit Arur, c'est comme si on remettait la charge de régler le problème d'Aman entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Arur. Et donc, vu du point de vue d'Hachem, ça s'appelle, dit le Gaon de Vilna, Nekama. C'est la Nekama qui est prise sur la vengeance qui est prise contre Aman. Et donc, d'un côté, il y a ce privilège que les Bnei Israël ont eu de voir que Aman a payé. Il a payé vraiment, puisque c'est ça le Vena Forchou. C'est cette idée-là que dans le Vena Forchou, il y a ce principe justement, c'est que ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait et qu'il voulait faire, c'est mamash retourné contre lui. C'était déjà le cas quand il a quand il a promené Mordechai sur le cheval. Lui, il voulait humilier Mordechai. C'est Mordechai qui devrait aller proclamer la gloire d'Aman. Remercié par le roi, etc. Ben c'est le contraire. C'est lui qui a dû aller proclamer la gloire de Mandré. Ça a déjà commencé de son vivant. Et c'est ce que, comme c'est Hachem qui a fait ça, sa délicieuse femme, la Zeresh, elle lui a dit, ah si tu as commencé à tomber dans un juif, tu t'en remettras pas. C'est ça qu'elle dit. C'est une vraie. Tu tombes devant l'Ebné Israël et tu tombes devant l'Ebné Israël avec le principe de Nahafokhu. Tu t'en mettras pas parce que ça, c'est un truc comme Nahafokhu, c'est Yad Vashem qui peut faire ça. Donc tu ne pourras pas t'en sortir. Alors il y a d'un côté ça, il y a ça. Privilège de voir dans la Megillah, on voit le Nahafokhu, c'est-à-dire la Nekama prise sur Aman. Et d'un autre côté, donc finalement, cette Nekama, elle a eu pour conséquence que les Bnei Israël sont sortis de la menace de la menace de cette solution finale qui était le projet finalement de le projet ultime d'Aman Amalek quoi. Et on s'en est sorti avec zéro mort de notre côté. D'un autre côté, il y a le Baruch Mordechai. Finalement, on aurait pu donner la Légion d'honneur à Mordechai pour avoir sauvé la vie du roi. Ça suffisait, non? On était bien content. Si on avait annulé simplement le projet d'Aman, et puis bon, Mordechai, il a reçu sa récompense, très bien. Bon, on entend bien. Non. Hachem nous a fait une tova. Ne sais pas exactement la vérité, ce qu'est la tova en question. C'est que Mordechai est devenu lui-même le grand vizir. C'est écrit dans la Megillah que la suite des aventures sont écrites dans les archives perses. Mais bon, je n'ai pas eu accès, donc je n'en sais rien. Je ne sais pas quelles sont les conséquences du fait que Mordechai est devenu grand vizir. En tout cas, on voit que les Bnei Israël s'en sont trouvés. C'est lui qui est grand vizir, donc les Bnei Israël sont montés en grade, en quelque sorte, dans l'état en question. Donc quand même, la reine est de chez eux et le grand vizir est de chez eux aussi. Donc, on nous dit, il faut être capable de ne plus faire la différence entre les deux. Pendant un moment, ça nous est demandé de perdre la conscience de la différence qu'il y a entre les deux dimensions, les deux dimensions. Qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi la. Avant de la perdre, cette différence, je veux bien la connaître. C'est quoi la différence? Est-ce que pour nous, ça change quelque chose? Baruch Haman ou Baruch Mordechai? Ça doit être une grande différence, puisqu'on nous, enfin une différence, puisqu'on nous dit qu'il faut rien moins que du sommeil ou d'un état d'ébriété, enfin, peut-être pas très grand, mais en tout cas, pour ne plus percevoir la différence. Il faut quand même quelque chose, a priori, sinon la différence, elle vous saute aux yeux. Qu'est-ce qui est plus grand? Baruch Mordechai ou bien Arur Haman?
Est-ce que c'est la différence entre le bien et le mal qui est là,
Non, mais
c'est-à-dire
dans ce cas-là, si on dit que c'est la différence entre le bien et le mal, d'abord, je ne sais pas, je vois pas très bien la différence entre le bien et le mal ici, mais.
Non, c'est pas la différence. C'est la différence entre Barour, c'est est-ce faut-il combattre le mal ou multiplier le bien?
Alors, bon, on peut dire qu'il y a quelque chose du genre multiplication du bien ou bien annihilation du mal. D'accord? Est-ce que c'est sur le même plan? Sinon, qu'est-ce qui est supérieur à votre avis? S'il y a une différence, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, non?
Dans quel sens plus grand?
Il y en a un qui fait 3 km et l'autre 2,5 km. Ça veut dire plus grand. Un qui est quelque chose qui nous apparaît comme une tova plus grande, ça nous donne plus de satisfaction, ça nous.
La multiplication.
Si je vous disais qu'est-ce qui est plus grand, la chute d'Hitler ou la création d'un État en Israël.
Un peut permettre si on multiplie le bien, ça donne plus de force pour. Non. Est-ce que le fait d'avoir un État d'Israël, État d'Israël créé,
Pas si l'exemple est bon, mais je ne savais pas ce qu'il fallait dire.
le mal existera toujours puisque c'est Hachem qui l'a créé. Mais si on devient
Ça,
plus fort, on
c'est
va
autre
le
chose.
combattre.
On va pas faire de la philosophie.
Non, je sais pas de la philosophie que je cherche à faire. Mais si on développe le bien, on devient plus fort que ce mal. Donc il est là, mais on a un point d'ancrage beaucoup plus
Non,
fort.
mais il a disparu, le mal. Aman a été anéanti. C'est pas qu'il y a encore le mal. Il a disparu.
La multiplication du bien, elle dépend précisément de la destruction du mal. Donc, il y a un élément qui va servir de tremplin à un autre. C'est pour ça que le bien, la multiplication du bien est supérieure.
Le tremplin est supérieur ou celui qui bénéficie du tremplin est supérieur?
Celui qui bénéficie du tremplin.
Oui.
Déjà, le fait qu'il y ait un tremplin, c'est ça qui est déjà qui fait supérieur.
C'est le contraire alors. C'est le tremplin lui-même qui est supérieur. Parce que c'est lui qui entraîne la supériorité de ce qui bénéficie du tremplin. Il est à la cause, non?
Dans ce cas, ils ne sont pas dissociables.
Oui, mais il se trouve que. Okay. Là, en l'occurrence, c'est dissociable, puisque la Torah nous dit il y a une différence, mais je te demande à Purim, dans un moment en tout cas, d'oublier cette différence. Tu vas boire jusqu'à oublier cette différence. Il y a une différence.
Dans le mal, il n'y a pas de multiplication.
Il n'y a pas de
Multiplication.
Non, d'accord, il n'y a pas de multiplication, mais il y a un anéantissement. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas n'importe quel mal qui est anéanti. C'est aussi la façon dont le mal a été anéanti. Avec ce Nahafochou qui montre bien comme Hachem s'est joué, comme il dit, sur l'Égypte. Je vous raconter combien je me suis joué de l'Égypte. Pas simplement, j'ai montré ma puissance. Je me suis joué de l'Égypte.
Rav, est-ce qu'on peut penser, est-il possible de penser qu'on puisse éradiquer le mal?
Non, mais c'est pas... La question, c'est pas ça. La question, c'est quelle est la différence entre les deux? Et est-ce que cette différence-là, elle est tellement, tellement importante qu'on ne peut oublier cette différence que en perdant du dat quasiment, en n'étant plus capable de dat, de discernement, etc., on n'est plus capable de faire une différence.
C'est-à-dire, il y en a un qui se met au service de l'autre. C'est le mal qui se met au service de la multiplication.
Oui, mais vous n'êtes pas est-ce en train de répondre à la question.
Est-ce que ça a à voir avec...
Vous êtes en train de faire un lien entre les deux. Mais ici, on n'est pas en train de... Si Mordechai n'avait pas été nommé grand vizir, mais qu'on ait eu seulement la destruction d'Aman, d'un côté, ou bien si on n'avait pas eu la destruction d'Aman, il n'a pas été complètement détruit, etc. Mais c'est Mordechai qui arriverait au pouvoir, il va annuler tous les décrets d'Aman, mais en arrivant au pouvoir.
Là, on voit qu'il y a une dimension divine. Hachem est beaucoup plus loué, beaucoup plus mis en valeur par cette réaction-là, par cette équation-là.
Laquelle ?
Eh bien, parce que je rapproche aussi ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'Hachem préfère ? Les actions des Réchaïm ou les actions des bons ? Ben, là, s'il y a une situation vivable, on s'en va et puis on arrive à vivre normalement bien. Mais là, on voit que c'est la main d'Hachem qui va jusqu'au... C'est plus que vivable, c'est bien. Hachem, c'est presque une équation d'obédience divine, si j'ose dire. Parce que ça va au bout de la chose. Ça va au bout dans la louange d'Hachem.
Peut-être. Je vois pas très bien ça, mais bon. Aman, il a pris des décrets. Bon. Si Mordechai arrive au pouvoir, il annule les décrets, point barre. Si vous voulez les décrets, bon, il envoie des... Qu'est-ce qu'il va faire ? Là, on est dans un royaume de fous, donc on ne peut pas annuler le décret. Donc, il est obligé d'envoyer des lettres et de dire aux Bnei Israël, voilà, le 13, ils vont vous tuer, donc il faut prendre les devants et tuer-les d'abord. Sinon, ils vont vous tuer. Parce que le décret royal, de celui qui se prend pour Dieu, Ahasvéros, au point que ces décrets ne peuvent pas être annulés, bon, ça veut dire que Mordechai est au pouvoir et il ne peut pas annuler les décrets d'Aman. Il est obligé de court-circuiter les décrets et de dire aux Juifs, tuez les gens avant qu'ils vous tuent. Bon, donc, les décrets n'ont pas été annulés. On ne voit pas que Aman, il n'a pas réussi, mais les décrets ils sont encore là, quoi, quasiment. Alors, ils sont datés, mais on pourrait presque changer la date et ils pourraient, dans une autre Dans une autre vie, personne, il pourrait être réactivé. D'une certaine manière, imaginez que les décrets, bon, ils sont encore là, ils sont dans les archives, et arrivent les Khomeini, là, et ils changent la date. Et voilà, on peut tuer les Juifs de Perse.
Si on suit la logique, enfin, qui n'est pas logique, si on suit le déroulement de cette histoire, eh bien, il y aurait encore une intervention pour changer. Parce qu'il y a un aboutissement, c'est comme dans certaines situations que l'on vit, il y a une présence, une main divine qui change et donne. Donc, si un met avant son pion là…
Dans les deux cas, il y a une intervention divine.
Oui.
Vous croyez que Mordechai, il est arrivé au pouvoir parce que Ahasvéros, où les gens voulaient qu'il soit au pouvoir, c'est Hachem qui a décidé qu'il allait au pouvoir. Au point que je ne sais même pas pourquoi il est arrivé au pouvoir. Bon, ce n'est pas une bonne raison, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Ça n'a pas changé grand-chose. Les Bnei Israël, quand ils ont posé la question « Est-ce qu'on va dire Hallel à Pourim ?», ils ont dit « On ne peut pas instaurer Hallel. » Parce que les premiers versets de Hallel, c'est « Hallou Avde Hachem » et nous ne sommes pas Avde Hachem. Nous sommes encore Avadim d'Achashverosh. Ils sont Avadim d'Achashverosh avec une reine qui est la reine Esther et avec un grand vizir qui est Mordechai. Ils sont quand même encore Avadim d'Achashverosh. Ils ne se sentent pas capables d'instaurer. Ils ont dit le Hallel de Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais instaurer un Hallel à Pourim, ils ne peuvent pas le faire parce que ce serait un mensonge. On n'est pas dans la situation de pouvoir dire qu'on est vraiment libéré. Pourtant, Aman est mort. Et les décrets ont été, non pas rapportés, mais enfin, ils ont été court-circuités. Mais justement, ils n'ont été que court-circuités. On n'a pas, il n'y a pas eu de chute d'Aman, vraiment.